Connaît-on ce qui se cache derrière cette petite phrase que nous prononçons de nombreuses fois dans une journée? Quelle heure est-il?
Au quatrième top, il sera exactement...
midi et des poussières. Midi et des poussières.
Un rendez-vous presque quotidien sur Radio Barthas.
Des invités, des reportages, des chroniques, de la musique. Une heure d'émission pour raconter ce qu'il se passe ici et un peu plus loin.
Midi et des poussières.
En réalité, pour être tout à fait précis, actuellement c'est le temps atomique, moins 10 secondes, plus une heure.
Bonjour à toutes et à tous, il est très exactement midi et des poussières, bienvenue sur Radio Barthas si vous nous rejoignez. On va passer un petit moment ensemble en direct via les ondes du 107FM ou peut-être nous écoutez-vous via les internets sur radiobarthas.net. Nous sommes le 7 janvier 2026, jour de la Saint-Raymond. On est au cœur de l'hiver, il faisait moins 7 ce matin et comme le dit le dicton, s'il gèle à la Saint-Raymond, l'hiver est encore long. J'aime bien ces dictons météorologiques, ces affirmations pleine de sagesse, enrobée de poésie. Alors j'ai cherché pour voir si on pouvait parfois en identifier l'origine, la source, mais j'ai rien trouvé de probant. Il y a quand même une page Wikipédia dédiée aux dictons météorologiques, vive Wikipédia vraiment. Mais il n'y a pas énormément d'infos précises. C'est le savoir et l'expérience des paysans qui ont bâti au cours des siècles un corpus de dictons qui se sont ensuite transmis de bouche à oreille jusqu'à vos oreilles en cette Saint-Raymond 2026. Et le 7 janvier, c'est aussi le jour d'un triste anniversaire, celui de la disparition de France Gall. C'était le 7 janvier 2018 et aujourd'hui, sur Radio Barthas, on pense à elle.
Prends pas cet air-là quand tu n'es pas avec moi. Et si tu t'en y penses à moi, ton chagrin s'en ira quand je serai dans tes bras. Mais en attendant, pense à moi. Pense à nos vacances au ciel bleu, pense à notre plage, à nous deux, à ce grand soleil sur toi et moi. Et pense à la neige, à l'hiver, au chalet sous les sapins verts, à nos soirées près du feu de bois. Ne prends pas cet air-là quand tu n'es pas avec moi. Et si tu t'en es, pense à moi. Ton chagrin s'en ira quand je serai dans tes bras. Alors mon amour, pense à moi. Pense à tous les mots que l'on dit quand tous les amis sont partis, qu'il ne reste au monde que toi et moi. Alors on devient silencieux, tu me caresses avec les yeux en disant tout bas, je t'aime toi. Je l'entends déjà au lointain, le train qui partira demain et qui te ramène enfin vers moi. Tu sais bien que je serai là avec tant d'amour dans la voix. Ne pense, pense, pense qu'à ça. Ne prends pas cet air-là quand tu n'es pas avec moi. Et si tu t'ennuies, pense à moi. Ton chagrin s'en ira quand je serai dans tes bras. Alors mon amour, pense à moi.
C'était France Gall sur Radio Barthas avec Pense à moi, un de ses premiers succès qui figure sur son tout premier 33 tours N'écoute pas les idoles, sorti en 1964.
Midi et des poussières.
« Connaissez-vous la mine de Vialas, celle qu'on surnomme aussi la mine au bois d'argent ou la mine au bois dormant? Ben, vous en avez déjà un peu parlé sur cette antenne en septembre dernier et je poursuis aujourd'hui. Alors, petit rappel des faits, la mine de Vialas est une mine d'exploitation de galène, un minerai de plomb argentifère, qui a été exploité de 1781 jusqu'en 1894 pour en extraire l'argent. L'usine construite en 1827 était attenante à la mine et employait des centaines de personnes. Vialas comptait à l'époque 2000 habitants contre environ 400 aujourd'hui. Les pierres extraites de la mine étaient concassées par une machine appelée le bocar qui était extrêmement bruyante et qu'on entendait apparemment résonner dans toute la vallée. Et l'argent a eu une très forte valeur monétaire tout au long du 19e siècle et la mine de Vialas, elle a alimenté la Banque de France. Et il y a même une légende qui raconte que l'argent extrait à Vialas aurait payé une partie de la dette de la guerre de 1870 imposée à la France par les Allemands. Alors aujourd'hui, sur le site de l'ancienne mine et de l'ancienne usine qui sont situés près du hameau de la Planche, eh ben, la nature a repris possession des lieux. Les vestiges industriels se perdent dans les branchages et les feuillages, les troncs sortent des murs de pierre en ruine. On dirait un peu une cité perdue, une cathédrale minérale et végétale, d'où ses surnoms hein, qu'on lui donne, la mine au bois d'argent ou la mine au bois dormant. C'est très romantique tout ça. Mais ce patrimoine qui raconte une page de l'histoire industrielle cévenole est en danger. Des éléments du bâti s'effondrent régulièrement, notamment pendant les épisodes cévenols. Alors il ne s'agit pas de tout réhabiliter, bien sûr, mais d'éviter la destruction totale des édifices qui tiennent encore debout. Et c'est pour ça qu'a été fondée en 2008 l'association Le Filon des Anciens, qui a donc pour but la sauvegarde et la valorisation du patrimoine de l'ancienne mine d'argent de Vialas. Marcel Sylvain Godefroy fait partie de cette association et il s'est passionné par l'histoire de la mine. Et en s'appuyant sur de nombreux documents que lui et d'autres membres de l'association Le Filon des Anciens ont réunis, eh bien il a écrit une série de textes qui sont romancés bien sûr, mais fondés sur les sources historiques qu'il avait à sa disposition. Alors Ben l'avait reçu au micro de Radio Bartas, donc en septembre dernier comme je vous le disais. Et depuis, Marcel, Sylvain, Godefroy et d'autres bénévoles du Filon des Anciens ont enregistré la lecture de ces textes. Ben les a ensuite très joliment mis en onde pour une expérience immersive, celle de nous replonger dans l'histoire de ce passé industriel cévenol. Et je vous propose aujourd'hui d'écouter trois de ces textes. Alors on commence par le début, c'est la découverte fortuite de la mine en 1780 par un certain Jean Vidal.
C'était en 1780, aussi vrai que je m'appelle Jean Vidal et que j'habite à Vialas. Comme j'avais besoin de jeûner pour allumer le feu dans ma cheminée, j'étais allé en couper du côté du ruisseau de la Picardière. Et soudain, qu'est-ce que je vois à mes pieds? Des pierres qui luisent tellement que j'en suis tout ébloui. J'en ramasse une. Elle pèse comme du plomb. Tout de suite, je pense qu'elle doit contenir de l'argent, vu qu'on est à quelques lieues de Villefort et que là-bas, on exploite des mines de plomb argentifère. Une idée me vint. Je vais aller montrer ça à un orfèvre à Alès. Il me dira si j'ai raison ou pas. Aussitôt dit, aussitôt fait. Je remplis mon sac de pierre et je me mets en route, aussi excité que si j'allais à la chasse. Tout en cheminant, je me souviens d'un conte que ma mère me racontait. L'histoire d'un pauvre bûcheron qui avait découvert dans la forêt une caverne où des malandrins cachaient l'or de leur rapine. Bien sûr, ici ne ce sont pas des pièces d'or que je transporte. Et je ne vais pas me faire riche à millions d'un seul coup. Mais qui sait, je pourrais peut-être m'acheter un manteau. Ce serait pas si mal. L'hiver approche et avec ce que j'ai dans mon sac, imaginez la pelisse de grand seigneur que je pourrais m'offrir. Mais voilà qu'en route, je rencontre Fabre, le facteur des postes de Villefort. « Qu'est-ce que tu fabriques là ?» il me dit en me voyant peiner sous mon sac comme un mulet. Tout fier de ma trouvaille, je lui montre un de mes cailloux. Pas très malin de ma part, je l'avoue. J'aurais mieux fait de garder ma découverte pour moi. Je m'en rends compte tout de suite en voyant Fabre ouvrir de grands yeux. Ça brille comme les étoiles au firmament, il me dit. Par le Saint-Esprit, je crois bien que t'as découvert un nouveau filon. Oui, mon vieux, t'as décroché la timbale. Au fait, tu les as trouvées où, ces pierres ? Ha ha ha, t'es trop curieux, Fabre. Si on te le demande, tu diras que tu n'en sais rien. Tu sais, ce que je dis, c'est pour t'aider, il s'est récrié. Crois-moi, c'est inutile de courir à l'est. Laisse-moi cette pierre, je la montrerai à Jansan fils. C'est le directeur des mines. Il saura bien, lui, si c'est de l'argent ou pas. Je l'avoue, j'étais flatté qu'on montre une de mes pierres au directeur. Pas n'importe qui, ce Jansan fils. Un grand monsieur, on le croisait dans Villefort, habillé comme un aristo. Vous auriez dû voir son habit somptueux, du drap bleu, des parements marrons et des boutons de laiton gros comme des louis d'or. Ce qu'on fait de plus beau à Paris. Sans réfléchir plus loin que le bout de mon nez, j'ai donc donné un caillou à Fabre. C'est vrai que sa proposition m'épargnait un long déplacement, mais je m'en veux encore. Jamais le pauvre bûcheron du comte de ma mère n'aurait fait pareille bêtise. Le lendemain, je vois débarquer chez moi deux messieurs bien mis, venus de Villefort. Ils me disent que c'est Jansan le fils qui les envoie. Le directeur a examiné mes cailloux, il en a conclu qu'ils contenaient bien de l'argent. De la galène argentifère, ils appelaient ça. D'après les calculs, à partir d'un quintal de mes cailloux, on pouvait espérer retirer environ 60 livres de plomb et 4 onces d'argent. Naturellement, ils voulaient savoir où je les avais trouvés. Moi, ça m'embêtait de leur dire. La timbale, je m'en rendais compte, ce n'est pas moi qui allais la décrocher. Tout tiré dans la poche de la compagnie des mines. Les deux messieurs insistent. « Allez, Vidal, fais pas ta mauvaise tête. Dis-nous, tu les as trouvés. » Rien à faire, je n'en démords pas. C'est mon filon, après tout, puisque je l'ai découvert. Ils peuvent bien me harceler de questions, plutôt m'arracher la langue que de parler. Je marque-boute, muet comme une carpe. Alors il commence à me sermonner, soi-disant que cet argent n'est pas à moi. C'est le bien de tous les Français. Il ira enrichir le trésor royal. Et patati, et patata. Ah, pour ça, ils savaient y faire, les devoiriens. Tout juste, s'ils ne m'ont pas broyé les jambes avec les brocotés, comme si j'étais un hérétique. 2 jours, il a duré l'interrogatoire. Et je vous dis pas les litres d'oignol qu'ils m'ont fait avaler. Finalement, ils m'ont eu à l'usure. J'ai fini par lâcher prise. Aussitôt, ils ont envoyé un maître mineur à la picadière pour voir ce qu'il en était. Un étranger, ce maître mineur, venu de la frontière prussienne pour travailler aux mines de Villefort. Il n'en revenait pas de ce qu'il avait vu. Si j'avais découvert un filon aussi riche que celui-là dans mon pays, je roulerais aujourd'hui carrosse, il disait tout émerveillé. Le minerai de mon filon était si riche qu'on pouvait le porter directement à la fonderie sans avoir besoin de le traiter par le lavage comme celui de Villefort. Je ne vous dis pas les sommes que ça a rapportées. Des milliers et des cents, elle a engrangé la compagnie. Et moi, là-dedans, qu'est-ce que je devenais ? Je me retrouve gros Jean comme devant. Aucune reconnaissance, ces ingrats. Mon filon, ils auraient pu au moins l'appeler Filon Vidal. Penses-tu, il a fallu que je fasse des pieds et des mains pour obtenir du directeur une récompense. Tiens, il m'a dit, je vois bien que tu louches sur mon habit. C'est comme si c'était la culotte du roi Dagobert. Eh bien, tiens, le voilà, je t'en fais cadeau. Pour sûr, comme il reprendra plus. La prochaine fois, avec mes économies, j'irai à la ville, acheter un marteau de 6 pouces et de 4 livres, des fleurets de 26 pouces, des écurelles, des épinglettes, des pointerolles, de l'huile, de la poudre, des mèches, des cordes et des burettes. Enfin, tous les outils qu'il faut pour l'exploiter tout seul, mon filon.
Vous êtes bien sur Radio Bartas et on se replonge aujourd'hui dans l'histoire de la mine d'argent de Vialas et dans tout le vocabulaire qui va avec, et ce grâce au travail de mémoire de l'association Le Filon des Anciens. Et tout de suite, on va entendre un second texte mis en onde par Ben, qui donne cette fois la parole à une femme de mineur qui craint que son fils soit lui aussi engagé à la mine. C'est un personnage fictionnel mais qui aurait tout à fait pu exister.
Il a mis dans sa musette le casse-croûte que je lui avais préparé et les mains encombrées de sa baramine et de sa massette. Il a grogné un vague à ce soir en refermant la porte. L'aube ne blanchissait pas encore les dentelles du 13, mais il connaît si bien chaque pierre du sentier qu'il pourrait y marcher les yeux fermés. Comment je pourrais lui en vouloir de son humeur de chien ? Il est toujours à craint quand on lui annonce des tirs de mine. C'est qu'il faut faire très attention en manipulant les charges de poudre. L'étincelle d'un pic contre une pierre, et c'est le feu d'artifice. Et puis, une fois la mèche allumée, il faut prendre ses jambes à son cou. Rien que d'y penser, la peur me tord les tripes. Me voilà partie pour une longue journée d'angoisse. Quand des bruits sourds sortent des entrailles de la montagne, je ne peux pas m'empêcher de penser au pire. Des femmes de marins ont dit que la mer leur prend leur homme. Moi, c'est la mine qui risque à chaque instant d'emporter le mien. Être femme de mineur, c'est ça. Vivre avec la peur au quotidien, à chaque fois que son homme part travailler. Je serai sur des charbons ardents jusqu'à son retour. Et sur le coup des 4 heures, mon regard ira se perdre de plus en plus souvent vers la fenêtre. Je dirai à Jean, notre petit dernier, « Va donc voir si ton père arrive. » Puis, n'y tenant plus, histoire de calmer mon mauvais sang, j'irai moi-même me poster au tournant du chemin. La mine, c'est comme s'il l'avait dans le sang. Une poussière brillante lui coule dans les veines. Ses mains en sont incrustées. À force de se frotter aux cailloux, elles sont pleines d'égratignures et le minerai s'y faufile. D'ailleurs, je l'appelle « main d'argent » quand on n'est que nous deux et que ses caresses dessinent sur ma peau de petits sillons brillants. Il y a des femmes qui disent qu'à Vialas, on a de la chance, vu qu'on est, comme qui dirait, assis sur une montagne d'écus. Comment on ferait, hein, elles disent, sans la mine, pour nourrir nos enfants avec notre lopin de terre et nos 2 chèvres. Si on les écoutait, on devrait baiser les pieds des directeurs qui nous donnent du travail. Je comprends leur raisonnement, mais on ne m'enlèvera pas de l'idée que mineur, ce n'est pas une vie. C'est survivre qu'ils font nos pauvres hommes. Quand ce n'est pas une explosion, c'est un éboulis qui leur tombe dessus. À chaque seconde, ils doivent ruser avec la mort, avec une longue perche, s'assurer de la stabilité du mur, écouter craquer les poutres du soutènement, être averti que le bois de sapin, il se déchire avant de céder, alors que le chêne se brise d'un coup, sans prévenir. Un bloc qui se détache, et en voilà un cassé en deux et cloué au lit pour le restant de ses jours. C'est arrivé récemment, un ouvrier, des mines de Comberonde. Il en est mort, même que le juge d'instruction est descendu d'aller pour venir mener l'enquête. Nos hommes, ils n'ont pas besoin d'être morts pour être déjà en enfer. Le mien m'a tout raconté de l'usine. La lumière aveuglante des fours, les flammes hautes comme des maisons, l'air irrespirable, les brouillards remplis de saleté, les bouffées empoisonnées qui vous pourrissent les poumons. Comment vous pourriez faire de vieux os ? Pas étonnant qu'ils meurent avant l'âge et que nous, les veuves, on soit condamnés à élever nos enfants avec 3 francs 6 sous. Vous savez ce que je crois ? Le directeur de la mine, il devrait offrir à chaque femme de mineur un collier de ce damné métal qu'il accrocherait à son cou comme une décoration pour service rendu. C'est vrai que ça scintille et que c'est tentant l'argent. Certains iraient jusqu'à vendre leur âme pour en avoir. Eux, c'est leur corps qu'ils vendent. Mais le minerai qu'ils arrachent à la roche, c'est les autres là-bas à Paris qui en profitent. Il finit en lingots, dans les coffres des banques, en pièces bruissantes dans la bourse des beaux messieurs et des belles dames, qui se promènent en calèche sur les Champs-Élysées, éclairées à l'électricité. Avec ce bel argent fait de la sueur et du sang de nos hommes, des immeubles de 20 étages grimpent dans le ciel. Des opéras, des arcs de triomphe et des tours Eiffel sortent de terre, des diamants brillent sur la poitrine, des cocottes aux terrasses des cafés. Quand je pense que notre Paul, notre aîné, sera bientôt en âge d'y aller, et que, morte d'angoisse, j'écouterai décroître le bruit de ses sabots contre les roches à fleur de terre du chemin de la mine. C'est comme si c'était fait, a dit le directeur. Dès qu'il aura l'âge, on lui achètera un pic et une massette. Ces histoires qu'on raconte dans la Bible me trottent dans la tête. À Canaan, jeter des enfants tout vifs dans les flammes pour apaiser le dieu Moloch. Et je me dis que les nôtres, d'enfants à Vialas, on les enfourne pareillement dans la gueule de la terre. On les écrase sous les martèlements du bocard. On les dévore dans des brasiers dont les feux ne s'éteignent jamais. Eh bien non, plutôt mourir, ça ne se passera pas comme ça. Vous pourrez danser sur vos têtes, monsieur le directeur, vous n'aurez pas mon Paul. Il travaillera à la poste ou au chemin de fer, n'importe quoi, mais un métier qui vous garde les mains blanches et une santé de fer pour le restant de vos jours. Il a une tête, mon Paul, il sait déjà ses lettres. Je lui répète chaque jour quand il part à l'école. Travaille bien, mon grand. Le porte-plume, c'est beaucoup moins dangereux à manier que le bâton de dynamite.
Sur Radio Bartas, on continue de se replonger dans le passé industriel Cévenol avec l'histoire de la mine d'argent de Vialas. Et pour terminer ce voyage dans le temps, un dernier texte écrit par Marcel Sylvain Godefroy et mis en onde par Ben, dans lequel on entend les moments de découragement d'un directeur de la mine qui a affaire à ses patrons à Paris.
Ah, quelle nuit, mes amis. J'ai d'abord eu un mal fou à m'endormir, tourmenté par les problèmes de production. Et lorsqu'enfin j'ai trouvé le sommeil, j'ai fait un affreux cauchemar. Mes patrons, le comité des censeurs de Paris, s'étaient réunis en tribunal pour me juger. Mécontents de mes services, ces messieurs me condamnaient à être piétinés par les 16 sabots métalliques du bocart, la machine infernale qui broie le minerai dans un bruit d'enfer. Ah, ça me sent changer de mes cauchemars habituels, qui ont tous trait à l'eau. Dans le plus dramatique, je hurle de terreur en voyant le Luech déferler dans la vallée. La rivière trimballe dans ses eaux furieuses des boules de granit, des troncs d'arbres, qui sur leur passage transforment l'usine en un champ de ruines et emportent au loin les machines. Ah, l'eau, toujours l'eau, objet de mes préoccupations, de tous les instants. Vitale énergie de notre métier, l'eau. C'est elle qui fait tourner les machines. L'été dernier, le cauchemar était bien réel. La sécheresse a perturbé la production pendant des mois. Et ma plus grande hantise est que ça se reproduise cette année. Éveillé en sueur, je me suis levé pour aller me rendre compte de la situation. À la prise d'eau, en amont du Luech. On était en mars et la journée s'annonçait frisquette. Je me suis habillé chaudement et je suis allé sceller ma jument Suzon. Dans l'aube naissante, la brume enveloppait le hameau de la planche. Tandis que les sabots de Suzon résonnaient sur le pont, et bras en bas, le brouillard était si épais que je ne distinguais pas la rivière. Arrivé à la prise d'eau, mes craintes ont été apaisées. Que d'eau, comme dirait le général McMahon. avec la fonte des neiges, c'est une vraie pataugeoire, là-haut. Si la pluie perdure, les machines tourneront à plein régime cet été. Dois-je être rassuré pour autant ? C'est ça l'embêtant avec le climat de ce pays. On ne peut jamais faire de pari sur l'avenir. Villemereux, mon prédécesseur à la tête de l'usine, m'avait prévenu lorsque j'ai pris mes fonctions. Vous allez souvent devoir improviser, mon cher Nadal. Dites-vous qu'à Vialas, aucune année n'est semblable à la précédente. 13 ans qu'il a dirigé le bocal, Villemereux. Il savait de quoi y parler. Le revers de la médaille, en effet, c'est qu'en cas de pluie trop abondante, l'acheminement du charbon de terre est compromis. Pas plus tard qu'hier, je suis allé à Alès et au retour, des équipages peinaient sur la route des trempées. Certains étaient cloués sur place, prisonniers du bourbier. La diligence a mis un temps fou à franchir le col de porte où je me suis arrêté pour parler au contremaître de la mine de charbon de Compredonde. Il ne s'est guère montré optimiste. « Je ne peux rien vous garantir, monsieur le directeur. Si le déluge continue, on devra arrêter les convois muletiers de charbon. » Et comme si je n'avais pas suffisamment de soucis avec les caprices de Mère Nature. Le comité des censeurs de Paris me rappelle sans cesse alors. « Qu'est-ce que vous fabriquez, monsieur Nadal ? Allez, du nerf, vous devez reprendre la production plus vite !» Comme si je n'étais pas le premier à savoir que l'arrêt de la production entraîne d'énormes difficultés. Les frais de fonctionnement sont gigantesques dans ce site peu propice à l'exploitation minière. Et si je ne parle pas du logement, du personnel, des frais de cantine et de mutuelle, ni des salaires des spécialistes qu'on a fait venir à grands frais de Suisse ou d'Allemagne et qui, les jours de paye, me font du chantage en menaçant d'aller se faire embaucher ailleurs si je ne les augmente pas. Quant aux bras locaux, ils sont tous aussi imprévisibles. La plupart des mineurs sont des paysans du coin qui possèdent un lopin de terre et quelques chèvres. Et dès les beaux jours, ils délaissent le pic et la massette pour empoigner la faux ou pour trier les vers à soie. Là encore, Villemereux m'avait prévenu. Il va falloir vous adapter aux coutumes de la région, Nadal. Dites-vous bien que les Sévenols ont gardé l'âme de leurs ancêtres, les Camisards. Ils ont la tête près du bonnet et n'aiment pas se soumettre aux ordres de Paris. Vous n'allez pas tarder à vous en rendre compte que les garder au travail n'est pas une tâche aisée. Parfois, effectivement, j'ai l'impression d'être pris entre marteau et enclume, comme dans mon cauchemar de cette nuit. Pourtant, je sais si je distingue clairement la voie à suivre et si je ne suis pas avare en conseils éclairés à l'attention de ces messieurs de Paris. Combien de fois ne leur ai-je pas suggéré d'équiper l'usine en perforateurs et bocards à vapeur ? À présent, on dispose d'un approvisionnement à peu près constant en charbon. Tous mes rapports soulignent l'importance des investissements à consentir dans les transports. C'est un fait que la création de la ligne de chemin de fer entre Alès et Nîmes a rendu beaucoup plus rapide l'acheminement des lingots à Paris. Mais encore faudrait-il améliorer les routes et les chemins qui conduisent à la gare d'Alès. Ce n'est qu'à ce prix qu'on rendra plus aisé et plus rapide les convois muletiers. Parfois, un doute m'assaille. Ai-je bien fait d'accepter ce poste? Il me faut me rendre à l'évidence. Mes avis ne servent pas à grand-chose. Autant pisser dans un violon, comme on dit vulgairement. Si encore ces messieurs de Paris se mettaient d'accord entre eux. Mais non, ils sont chacun leur mot à dire sur la façon de gérer la mine. Parfois, j'ai l'impression d'avoir affaire à des chevaux qui se disputent une poignée d'avoine dans une écurie. Mes rapports, j'ai bien peur qu'ils échouent dans quelques cabinets poussiéreux, aux murs tendus de toiles d'araignée. Que voulez-vous? Les hommes sont ainsi faits. C'est une chose de donner des ordres, bien au chaud dans un bureau. C'en est une autre d'être confronté aux difficultés du terrain.
Voilà, c'est la fin de notre immersion dans le passé de la mine d'argent de Vialas. Merci beaucoup à Marcel, Sylvain, Godefroy et aux bénévoles de l'association Le Filon des Anciens pour ces textes et leurs lectures. Et merci à Ben de s'avoir si joliment mis en onde. C'était hyper immersif, on s'y croyait. Et si vous voulez en savoir plus sur l'histoire de la mine, vous pouvez consulter le site www.minedargent-seven.fr. Et il y a aussi des visites guidées du site qui sont régulièrement organisées.
Midi et des poussières.
Midi et des poussières. Un rendez-vous presque quotidien sur Radio Bartas.
Et aujourd'hui, nous sommes mercredi, c'est le jour des sorties cinéma et c'est le jour de la désormais traditionnelle chronique Parlons Ciné avec Cinéco.
Parlons ciné
avec Cinéco,
la rubrique cinéma de Cinéco,
l'association de cinéma itinérant en Cévennes, sur Radio Bartas.
Et aujourd'hui, pour la chronique Parlons ciné avec Cinéco, c'est Jérôme qui est avec nous. Bonjour Jérôme.
Bonjour Raphaël.
Alors voilà, c'est la rentrée 2026 de Cinéco sur Radio Bartas, donc on souhaite à tous les auditeurs de cette chronique une très bonne année.
Oui, nous aussi, de la part de toute l'équipe de Cinéco, une bonne année 2026.
Et alors, avant de parler du film d'aujourd'hui, on ne dévoile rien pour l'instant, Jérôme, tu tenais à faire un petit focus sur le prix de la place de cinéma à Cinéco pour expliquer un peu à nos auditrices, nos auditeurs, ce qui se cache derrière le coût d'une place de cinéma.
Oui, je voulais vous proposer un petit pas de côté dans cette chronique, un petit pas de côté un peu pédagogique. Quand on achète un billet de cinéma, on a souvent l'impression que tout l'argent va au cinéma, qu'on achète le droit d'entrée dans la salle. En réalité, le prix d'un billet se décompose en plusieurs parts qui servent chacune à quelque chose de précis. Je vous propose donc de vous expliquer très simplement comment se décompose le prix d'un billet de cinéma et à quoi il sert réellement. D'abord, comme pour beaucoup de biens culturels, il y a la TVA. Pour le cinéma, elle est à taux réduit, aujourd'hui à 5,5. Cette part est reversée à l'État, comme pour un livre ou un spectacle vivant. Elle ne reste ni au cinéma, ni au film. Par exemple, pour un billet plein tarif chez Cinéco, à 5 euros, cela représente 28 centimes d'euros. Ensuite, il y a une taxe très spécifique au cinéma français, qu'on appelle la TSA, la taxe spéciale additionnelle. Elle représente 10,72% du prix du billet. Cette taxe est directement reversée au Centre national du cinéma et de l'image animée, le CNC. C'est grâce à cette taxe que le cinéma français peut être soutenu. Aide à la production des films, aux courts-métrages, au cinéma d'auteur, mais aussi à la construction et à la modernisation des salles, y compris celles situées en milieu rural ou des cinémas itinérants. Quand on achète un billet, on finance donc aussi, comment dire, le cinéma de demain. À l'échelle nationale, la TSA représente environ 40% du budget cinéma du CNC. C'est pas rien. Concrètement, quand vous achetez un billet plein tarif à Cinéco, 5 euros, 54 centimes d'euros donc sont reversés au CNC via la TSA. Il existe également une petite part liée aux droits musicaux via la SACEM. lorsque des œuvres musicales sont utilisées dans les films. C'est une part plus discrète, mais elle permet de rémunérer les compositeurs et les ayants droit. Dans notre exemple, d'un billet à 5 euros, 1,5% sont reversés à la SACEM, soit environ 7 centimes. Une fois ces taxes retirées, le prix du billet est partagé entre deux acteurs principaux, le distributeur de films et l'exploitant de la salle. En moyenne, on est sur un partage autour de 50% pour le distributeur et 50% pour l'exploitant, même si cela peut varier selon les semaines d'exploitation. C'est ce qu'on appelle le taux de location. Pour exemple, dans la première et deuxième et troisième semaine d'exploitation d'un film, généralement c'est 50-50. À partir de la quatrième et cinquième semaine, l'exploitant peut commencer à négocier le taux de location. Au lieu d'être à 50-50, il peut très bien passer à 55-45, voire un petit peu plus. Donc la part du distributeur, dans notre exemple, c'est 2,04 €, ça sert à financer la sortie du film, la promotion, les copies et l'accompagnement des œuvres. Le distributeur rémunère aussi le producteur qui reverse ensuite un salaire ou un pourcentage aux équipes du film. Les réalisateurs, les acteurs, les scénaristes, etc. sont payés comme ça. La part de l'exploitant, là aussi 2,04 €, sert au fonctionnement du cinéma, ici Cinéco. Donc ça sert à payer les salaires, acheter du matériel, entretenir le matériel, assurer les déplacements, enfin tout le bon fonctionnement de la structure. En résumé, acheter un billet de cinéma, ce n'est pas seulement payer une séance, c'est aussi participer à tout un écosystème culturel, de la création jusqu'à la diffusion, même ici sur notre territoire. Donc les recettes des salles de cinéma jouent un rôle vraiment primordial dans le développement du cinéma, ici en France. Et voilà, vous savez tous les secrets sur le prix d'un billets de cinéma.
Bah merci beaucoup Jérôme, moi je savais rien de tout ça, c'était hyper intéressant d'en apprendre plus, donc merci pour ce petit point. Et alors on passe tout de suite au film que tu vas nous présenter cette semaine et qui joue dans un certain nombre de salles de Cinéco.
Ouais, il est joué jusqu'au 18 janvier, il reste encore une dizaine de possibilités de le voir sur notre zone d'intervention. Donc aujourd'hui, je vous propose de découvrir un film qui a profondément marqué la sélection cannoise 2025, où il a décroché le Grand Prix, l'une des récompenses les plus prestigieuses après la Palme d'Or. Palme d'Or, que je vous rappelle, décernée cette année à Jafar Panahi pour son film Un simple accident, récemment programmé d'ailleurs aussi par Cinéco. Il s'agit, donc le film dont je vais vous parler, il s'agit de Valeurs sentimentales, réalisé par Joachim Trier. Valeurs sentimentales est une comédie dramatique familiale qui s'ouvre sur le retour d'un père absent, réalisateur de renom au cœur de la vie de ses deux filles, Nora et Agnès. Après la mort de leur mère, ce père revient avec un projet de film très personnel, espérant se retrouver sur le devant de la scène à nouveau. Et il tente aussi de rallumer des liens brisés qui ont profondément façonné la vie de ses deux filles. Ce récit d'apparence simple se déploie une exploration intime et sensible de la réconciliation, du pardon et de l'impact des souvenirs familiaux. Dans ce film, la maison familiale n'est pas seulement un décor. C'est un espace chargé de mémoire, un lieu presque vivant, qui porte à la fois les cicatrices et les espoirs des personnages. Un thème particulièrement à Joachim Trier. Dans Valeurs sentimentales, Nora, un des personnages principaux, interprété par Renat Rintve, j'espère que je prononce bien le nom, que l'on avait déjà découvert dans le précédent film de Trier, Julie en 12 chapitres, rappelez-vous, pour lequel elle avait remporté en 2021 le prix d'interprétation féminine à Cannes. Donc Nora est une comédienne de théâtre talentueuse, mais un peu particulière, je ne vous en dirai pas plus, je vous laisserai découvrir le film. Elle est confrontée à la proposition de jouer dans le nouveau film de son père, Gustave, un réalisateur vieillissant qui a quitté sa vie familiale depuis longtemps. Après le refus de Nora, Gustave offre finalement le rôle à une jeune star hollywoodienne. Et ce choix ravive des tensions profondes, mais ouvre aussi la possibilité d'une confrontation intime entre les personnages, et avec ce personnage à part entière qu'est la maison, omniprésente dans le film. Joachim Trier, qui a coécrit le film avec Eskil Vogt, signe avec Valeurs sentimentales une œuvre qu'il décrit comme l'une de ses créations les plus riches et les plus complexes à ce jour. Le scénario s'appuie sur les dynamiques familiales, les rapports entre générations, et sur l'idée que l'art peut être à la fois un terrain de guérison et une source de fractures émotionnelles. Ce sont des thèmes chers à Joachim Trier. En préparant cette chronique, Raphaël, j'ai revu Julie en 12 chapitres et Thelma. Je n'ai pas eu le temps de revoir ses autres films, Back Home, Oslo, 31 août et Nouvelle Dawn. Mais le simple fait d'enchaîner ces trois films permet de ne plus seulement regarder des films, mais de voir s'affirmer une œuvre, une véritable œuvre cinématographique. Dans Valeurs sentimentales, j'ai retrouvé quelque chose de très très fort et de très constant dans le cinéma de Joachim Trier. Cette idée que la maison, tout comme le soi, soi-même, la famille, les gens qu'on aime, est d'abord un lieu étrange, un espace familier, presque protecteur, où l'on croit pouvoir se mettre à l'abri du monde. Mais chez Joachim Trier, ce refuge n'est jamais totalement sûr. La maison familiale devient un espace chargé de mémoire, de tensions silencieuses, parfois même un lieu labyrinthique dont il est difficile de s'échapper. C'est précisément là, dans ces espaces intimes, le foyer, la famille, l'intériorité des personnages que rôdent les dangers les plus subtils. Non pas des menaces issues de l'extérieur, mais celles des décisions mal prises, des mots qui n'ont pas été dits, et des choix que l'on a repoussés trop longtemps. Chez Trier, le danger ne vient pas du dehors. Il naît au cœur même de ce qui est censé nous protéger. Ce sont des thèmes qui traversent déjà ces films précédents comme Julie en 12 chapitres ou Thelma, que je vous invite également à découvrir. Thelma, d'ailleurs, un film dans lequel il fait un pas dans le genre fantastique. Et c'est sans doute pour cela que Valeurs sentimentales touche autant. Le film nous rappelle que nos lieux les plus familiers, nos propres vies intérieures, peuvent être à la fois des abris et, comment dire, aussi des terrains profondément instables. Et pour conclure cette présentation, Valeurs sentimentales est un film que j'ai trouvé profondément humain, une œuvre qui explore avec justesse les liens familiaux, les non-dits et les blessures du passé. Joachim Trier signe ici un récit à la fois intime et universel, porté par des acteurs remarquables. Stellan Skarsgård dans le rôle du père, Renat Rinsve dans celui de Nora, et une actrice qu'on n'a jamais vue au cinéma, je crois, Inga Ibsdotter Lilleask, assez exceptionnelle dans le rôle de la petite sœur Agnès, que je n'ai pas décrit pendant cette chronique parce que je veux vous laisser découvrir la complexité du film. C'est un regard cinématographique d'une grande maturité, un film qui nous rappelle que parfois, pour comprendre les autres, il faut d'abord comprendre ce que nous gardons en nous. Et c'est cette phrase incroyable que je terminerai cette chronique.
Merci beaucoup, Jérôme, pour cette belle chronique qui aiguise la curiosité et donne très envie d'aller voir le film. Merci beaucoup.
Merci, Raphaël. À très bientôt pour une prochaine chronique.
I saw a dream last night, bright like a falling star, and the sources of light seem so near, yet so far. I thought I was in flight, out where the planets are, moving between day and night, here and and there you are. Follow the dancing girl, a vision in amber lace. Such an entrancing girl, she moves with such rhythm and grace. Who can she be? Follow the dancing girl, go to a quiet place. In the weary world, somewhere between time and space, we shall be
each of us is born alone. Well, welcome to the twilight zone. You can leave with only what you bring. Things we cannot see appear, singing songs we cannot hear, and everything is surely everything. Meanwhile, in the ghettos, dust and gloom, bird is blowing in his room. Say all those notes, won't take the pain away. And man, you'll surely come to heart with that needle all up in your arm. And dope will never turn the night to day. Just a little further down the line, baby sister hits these streets at night. Say the wind blows chilly and little Willie needs new shoes. So just tell her, say tell her what you want. Said, tell her what you wanna do. Boogie, bop, a boogaloo. Tell her what you wanna do. Boogie, bop, a boogaloo. I said, tell her what you wanna do.
Vous êtes bien sur Radio Bartas. On écoutait à l'instant le titre Dancing Girl de Terry Callier, un morceau qui ouvre la bande originale du film Valeurs sentimentales de Joachim Trier, dont nous parlait à l'instant Jérôme de Cinéco. Et la chronique Parlons Ciné avec Cinéco est à retrouver en podcast sur le site de Radio Bartas. Et le film est donc à voir sur les écrans lausériens. Ce mercredi à 20h30, il joue à Florac. Demain, jeudi 8 janvier à 18h, c'est à Saint-Martin de Boubeau et à 20h30 à Saint-Enimi. Et samedi 10 janvier à 20h30, il passe à Bar des Cévennes. Et pour terminer cette émission, comme chaque mercredi ou presque, voici l'horoscope. Alors le Nicoroscope sera de retour dès la semaine prochaine normalement. Et en attendant, on se console avec l'horoscope de Rob Bresny, notre deuxième astrologue préféré après Nico, que vous pouvez lire chaque semaine en accès libre sur le site du Courrier International. Et alors, que nous dit Rob Bresny en cette nouvelle année? On va s'intéresser au taureau cette semaine, car Léo, qui n'est pas dans le studio avec moi aujourd'hui, mais qui n'est pas très loin et qui écoute, n'est-ce pas Léo, j'en suis sûre, attentivement l'émission, est né sous le signe du taureau. Alors Léo, écoute bien, voici ce que te dit Rob Bresny pour ce premier horoscope de 2026. Ton cœur ne bat pas avec la régularité d'un métronome, mais son rythme accuse de légères variations, tout à fait saines et normales. Une fréquence cardiaque imperturbablement égale et mécanique serait, en revanche, inquiétante, car ton cœur sait une chose que ton mental peine à admettre, l'invariabilité est l'expression d'une inclination pathologique, alors que l'inconstance et les fluctuations sont d'excellents indicateurs de vitalité. Le rythme même de la vie évolue constamment pour réagir et s'adapter aux aléas et imprévus qui font tout le sel de notre existence. En 2026, Taureau, c'est dans un tel tourbillon d'impermanence que tu trouveras plénitude et épanouissement. « Voilà, c'est la fin de ce Midi et des Poussières. Merci d'avoir été à l'écoute. Sachez que vous pouvez retrouver toutes les émissions en podcast sur le site de Radio Bartas. Et si vous avez raté le direct du jour, sachez qu'il est rediffusé le soir à 21h. Et avant ça, ne raccrochez pas, plein de choses arrivent sur Radio Bartas à 13h30. C'est les annonces de milieu de semaine. À 15h, vous retrouverez Jacqueline et son chaudron des découvertes. À 17h, ce sera l'heure du poil sous les bras. Et à 19h, vous pourrez entendre la belle équipe d'Open Bartas, émission en rediffusion avant leur rentrée en direct mercredi prochain. Et entre tout ça, de la très bonne musique, bien sûr. Voilà, c'est déjà pas mal, non ? À demain.
Sait-on ce qui se cache derrière cette petite phrase que nous prononçons de nombreuses fois dans une journée ? Quelle heure est-il ?
Au quatrième top, il sera exactement...
Midi
et des poussières. Midi et des poussières.
Un rendez-vous presque quotidien sur Radio Bartas.
Des invités, des reportages, des chroniques, de la musique. Une heure d'émission pour raconter ce qu'il se passe ici et un peu plus loin.
Midi et des poussières.
En réalité, pour être tout à fait précis, actuellement, c'est le temps atomique, moins 10 secondes, plus une heure.